m'appelle Sébastien Le Picard, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes. Ma spécialité est la physique, et c'est donc à l'Institut de physique de Rennes, où je fais mes travaux de recherche et j'enseigne la physique à différents niveaux. La spectroscopie, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que la manière de voir les molécules qui sont présentes dans ces nuages, qui sont très très loin, donc on ne peut pas faire de prélèvement facilement, il y a quelques missions hein, qui font ce genre de choses, mais ce n'est pas facile. En fait, on peut les observer par exemple parce qu'elles émettent des ondes, quand elles tournent ou quand elles vibrent, elles émettent des ondes qui ressemblent un peu à des ondes radio en fait, et ces ondes, on peut les collecter avec les télescopes. D'accord. Et chaque molécule, en fait, quand elle émet un signal, a son signal qui lui est propre, un peu comme une empreinte digitale. Et quand on analyse ce signal, eh bien on peut identifier quelle molécule a émise. Alors, qu'est-ce qu'on fait en laboratoire du coup? Ben, en laboratoire, c'est plus facile d'utiliser une molécule et d'essayer de voir ce qu'elle émet comme onde. On enregistre le signal et puis on le compare au signal qu'on reçoit des télescopes. Donc en gros, c'est ça. En laboratoire, on va faire un enregistrement des signaux émis par les molécules dans les mêmes conditions où elles se trouvent dans l'espace. Donc ça peut être très chaud ou très froid, ça dépend des endroits. Et puis ensuite, du coup, on a un enregistrement qu'on compare à celui que reçoivent les télescopes. Et voilà, quand ça colle, bah c'est que c'est la bonne molécule. Alors le milieu interstellaire, il est constitué des mêmes éléments que nous, en fait, hein, c'est-à-dire d'atomes, d'hydrogène, de carbone, d'oxygène, d'azote. En fait, dans le milieu interstellaire, elle est essentiellement sous forme de gaz. Et puis on trouve des petites poussières de taille micrométrique, c'est à peu près le diamètre d'un cheveu, pour vous donner une idée. Alors ce qu'on appelle les nuages moléculaires, c'est en fait les nuages dans lesquels il y a plus de molécules. En fait, ces nuages interstellaires, ils ont une densité qui est assez variable d'un endroit à un autre, donc ils sont plus ou moins denses. Et aux endroits les plus denses, c'est là que se forment le plus de molécules. Et donc c'est pour ça qu'on leur donne ce nom de nuages moléculaires. C'est parce qu'il y a beaucoup de matière à ces endroits-là, et bien il commence à se passer un phénomène quand il y a beaucoup de matière concentrée à un endroit qu'on appelle la gravitation, l'effondrement gravitationnel. Et cet effondrement gravitationnel peut donner naissance ensuite à une étoile. Alors aujourd'hui, c'est l'hypothèse, et on en est quand même assez sûr, parce qu'on commence à voir des systèmes planétaires se former ailleurs qu'autour du Soleil, autour d'autres étoiles. Donc aujourd'hui, on a quand même une bonne idée qu'effectivement, c'est dans la même, tout autour de l'étoile, que s'agglomère de la matière pour former des planètes au moment où elles-mêmes se forment. Donc c'est une séquence qui est vraiment simultanée entre formation d'étoiles et formation des planètes autour. Effectivement, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de planètes. Il y en a presque autour de toutes les étoiles. Donc comme il y a peut-être 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie et qu'il y a 100 milliards de galaxies, vous voyez, il y a des milliards et des milliards de planètes, en fait. Donc si on raisonne en termes de pure probabilité, pourquoi pas, puisqu'il y en a sur Terre. Après, pourquoi nous, on ne la verrait pas facilement? Ben, pour plusieurs raisons. D'abord, ça demande des moyens d'observation extrêmement fins, qu'on approche de pouvoir faire des choses, d'avoir des traces, peut-être quelque chose. Mais d'abord, il faut savoir quoi chercher. Et ensuite, il y a une question de temps. C'est-à-dire que là, il y a de la vie sur Terre, mais ça représente une petite... La vie sur Terre, elle est là depuis un temps qui est petit par rapport à la vie de l'univers. Donc il faut aussi une simultanéité de la vie ailleurs pour pouvoir l'observer. Donc ça fait une autre raison qui rend difficile cette quête. Mais déjà, techniquement, avoir des preuves de vie ailleurs, ça reste une difficulté. Alors, en fait, les constituants élémentaires, les atomes qui forment les molécules, qui forment elles-mêmes ensuite ces grains, elles sont toutes les mêmes, en fait. C'est celles qu'on trouve un peu partout dans l'univers, du carbone, de l'azote, de l'oxygène, etc. Mais simplement, elles s'assemblent de manière différente suivant l'environnement dans lequel on se trouve. Donc elles ne vont pas s'assembler de la même manière dans notre atmosphère terrestre que dans les nuages interstellaires. Mais par contre, les mécanismes qui les forment, ils sont assez similaires. Donc quand on comprend ce qui se passe dans un endroit, ça aide à comprendre ce qui se passe dans l'autre. Après, effectivement, leur composition chimique, elle va être différente parce qu'elle va dépendre bien de l'activité humaine, de l'activité aussi naturelle comme les volcans, etc. Donc la composition fine est peut-être différente, mais c'est les mêmes atomes qui constituent ces poussières. Ce qui permettrait d'aider à comprendre, comme vous le dites, les mystères de la vie, c'est de comprendre effectivement comment ces atomes se sont assemblés dans les nuages interstellaires, dans les disques dans lesquels vont se former les planètes ensuite, parce qu'on sait que c'est dans ces grands nuages que vont être les premières molécules qui vont se transformer au fur et à mesure du temps en molécules et éventuellement biologiques un jour. Alors évidemment, pour arriver à une molécule biologique qui est extrêmement complexe, il faut des conditions particulières. Et en particulier, ce que l'on pense aujourd'hui, c'est qu'il faut forcément qu'à un moment donné, ces molécules, même relativement complexes qu'on trouve dans l'espace, qui auraient pu être apportées par des comètes par exemple, elles tombent dans l'eau parce que dans l'eau, on peut faire des réactions chimiques beaucoup plus compliquées et former du coup des molécules bien plus compliquées, comme des molécules biologiques peut-être.
9, 60 seconds. Best recorders, high speed. Check all batteries. Minus 50. Armed. 40. Check inverters. Minus 30 seconds. Check the arm.
Elles sont multiples, les sources effectivement de particules. Il y a des sources naturelles, par exemple, il y a des feux de forêt qui se créent, qui ne sont pas forcément d'origine humaine et qui vont créer de la suie. Il y a les sables des déserts qui sont aussi des particules. Il y a les sels marins qui, quand ils s'évaporent avec de l'eau, eh bien, forment des particules. Donc il y a beaucoup de sources qui sont simplement naturelles, on dirait. Et puis les volcans aussi, qui sont une grande source de particules. Mais si on regarde, il y a aussi, bien sûr, une bonne partie qui vient de la production humaine. Et ce qui pose problème, c'est qu'il y a des fortes concentrations à certains endroits, en particulier autour des villes, qui sont très peuplées dans certains endroits et où il y a beaucoup de transports, etc. Et là, ça devient dangereux parce que la concentration vient particulièrement forte et à basse altitude, là où on respire, en fait. Là, comme vous le savez, il y a des politiques qui sont proposées, notamment par le GIEC, qui est un grand organisme qui étudie la manière dont évolue notre atmosphère. C'est très difficile de répondre à cette question précisément parce que chaque partie, chaque population a ses propres préoccupations, son propre niveau de développement, donc il y en a qui ont beaucoup profité et on demande à tout le monde de réduire. Bon, clairement, c'est sûr que pour réduire la pollution, il va falloir réduire nos émissions de particules et de polluants. Donc c'est un effort global à faire, ça c'est sûr. Effectivement, il n'y a pas de frontières pour les particules et pour la pollution. Et donc si chacun fait sa propre politique, on n'arrivera pas à grand chose. Donc il faut vraiment une politique concertée, il faut de la pédagogie, il faut de la prise de conscience. Ça prend du temps et malheureusement on prend beaucoup de retard actuellement.
And to be clear, this is not about everyone moving to Mars, it's about becoming multiplanetary. I think Earth will be a good place for a long time. But it's the probable lifespan of human civilization will be much greater if we're a multiplanet species. Now that's the defensive argument, but the argument that I actually find most compelling is that it would be an incredible adventure. I think it would be the most inspiring thing that I could possibly imagine. And life needs to be more than just solving problems every day. You need to wake up and be excited about the future.
Alors effectivement, on peut toujours imaginer, parce que voilà, il y a des avancées technologiques qui sont fortes toujours, imaginer de voyager un peu plus dans l'espace qu'on est capable de le faire. Mais quand même, on met encore pour l'instant beaucoup de temps à aller vers les planètes, même les plus proches. Et les rendre habitables, ça, c'est aussi assez compliqué. Donc pour ce qui est du court terme, qui serait quelques dizaines d'années ou même 100 ans, je pense qu'on est loin de faire de gros progrès qui permettront de vraiment transformer les choses. Après, on peut toujours bien sûr imaginer qu'un jour, on soit obligé de quitter notre planète et de trouver une autre solution. Bon, on verra. On va essayer d'éviter que ce soit le cas.